France Musique.
Très bon week-end à vous, Nicolas Lafitte, et à lundi matin.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît ? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne ?
Il y a du café ?
Ouais, du café. J'arrive.
Bonjour à tous, en ce samedi matin où Fabrication Maison va lever le voile une fois de plus sur les coulisses de la musique à la Maison de la Radio. Dans le portrait, nous recevons la compositrice Isabelle Aboulker, dont l'un des opéras, Le Voyage de Marco Polo et la Princesse de Chine, sera chanté cet été par la maîtrise à Montpellier. Pour le reportage, Jérôme Sandlars a assisté à l'incroyable vente aux enchères de vinyle de la discothèque de Radio France. La chronique, elle évoquera l'ouverture de la maison de Messiaen à Petit-Chet. Et puis nous retrouverons Jean-Yves Patte entouré de pianos anciens. Et enfin, nous terminerons avec la lettre de l'un d'entre vous dans Parlez-moi de musique. Tout le monde est prêt? Alors, on y va.
France Musique.
Bonjour Isabelle Aboulker.
Bonjour Dominique Boutet.
C'est un vrai plaisir de vous recevoir ce matin, Isabelle. Et comme je le disais, l'un de vos opéras, Marco Polo et la Princesse de Chine, va donc être chanté par la maîtrise de Radio France, une maîtrise que vous connaissez bien, Isabelle.
Oui, je la connaissais au début par le très regretté, très aimé, très admiré Tony Ramone, qui m'avait commandé Douce et Barbe Bleue.
Un merveilleux ouvrage.
Un ouvrage dont je lui suis reconnaissante de m'avoir donné l'occasion de le faire. Et justement, le livret de Christian Emery, je rebondis sur Marco Polo, car le livret est également de Christian Emery, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur ces deux ouvrages. Et puis, je retrouve avec un immense plaisir la maîtrise, avec la direction magnifique et le grand talent, la grande gentillesse, le charme infini de Sophie Janin. Voilà, alors donc j'ai une chance vraiment particulière, parce que nous avons fait ensemble la création de Mila et l'arbre bateau, un conte tout petit pour les tout petits. Et puis, quelque chose qui me tient à cœur, le boule de suif, une adaptation de boule de suif pour un cœur de jeune. Donc, il y a un mois, j'ai eu le plaisir d'entendre à la Maison de Radio France. Et me voilà une troisième fois, c'est beaucoup.
Ben non, ça n'est pas beaucoup,
ben si,
Isabelle.
C'est beaucoup.
Vous êtes un petit peu la personne qui vous intéressait à l'écriture pour tous ces jeunes enfants, qu'ils soient d'ailleurs très professionnels, comme les jeunes de la maîtrise, mais aussi, vous travaillez pour des collégiens, dans
et
les collèges.
Écoles,
et des écoles.
Et des maternelles. Je suis devenue vraiment la grand-mère des maternelles. Et on aime bien me demander... Pourquoi vous écrivez? Comment vous faites? Et votre mari, est-ce qu'il vous permet d'écrire? Des questions merveilleuses.
Les enfants ont bien de la chance. Alors Isabelle, on va essayer de faire votre portrait ce matin à travers vos choix musicaux. Et on commence tout de suite assez fort avec un extrait du Dialogue des Carmélites de Francis Poulenc.
Blanche, votre frère avait grande hâte de vous revoir.
Monsieur le chevalier, trop beau pour son petit lièvre.
Ne répétez pas à tout propos une plaisanterie qui n'a de sens que pour nous deux.
Les lièvres n'ont pas l'habitude de passer la journée hors de leur gîte. Il est vrai que je transportais le mien avec moi. Mais une simple glace cette foule et ma craintive personne m'a paru un moment, je vous assure, une protection bien dérisoire. Je devais avoir l'air très ridicule.
Monsieur de Damas, qui vous a vu au carrefour Bussy, vient de me dire qu'à travers vos glaces, vous faisiez très bonne contenance.
Oh, monsieur de Damas n'a sans doute vu que ce qu'il voulait voir. Réellement, je faisais
grâces et bonne contenance. Mon Dieu, il en est peut-être du péril comme de l'eau froide qui d'abord vous coupe le souffle et où l'on se trouve à l'aise dès qu'on y est entré jusqu'au cou. Cette cérémonie chez les dames de la visitation a été très longue et m'a beaucoup fatiguée. Voilà sans doute pourquoi je déraisonne. Avec votre permission, mon père, je vais prendre un peu de repos avant le souper. Dieu!
Un orage menace.
Puisque vous vous retirez dans votre appartement, demandez tout de suite des flambeaux et n'y restez pas sans compagnie. Je sais que le crépuscule vous rend toujours mélancolique. Vous me disiez, quand vous étiez petite, je meurs chaque nuit pour ressusciter chaque matin.
Ce qu'il n'y a jamais eu qu'un seul matin, monsieur le chevalier, celui de Pâques. Mais chaque nuit, un autre est celle de la très sainte agonie.
Alors, un extrait du dialogue des Carmélites de Francis Poulenc, c'est la première entrée de Blanche qui est chantée par la merveilleuse Denise Duval. Elle est donc face à son frère. C'est une production qui vous est chère, Isabelle Aboulker.
C'est l'œuvre qui m'est chère, et plus encore que ça, parce qu'elle est reliée. D'abord, j'avais eu mon prix d'accompagnement au conservatoire, et on nous envoyait dans les classes d'art lyrique accompagnées. Et j'ai eu la chance d'être pianiste pendant... Je faisais deux classes par semaine avec Xavier Depraz. Xavier Depraz, oui. C'était vraiment l'événement de sa vie, cette création, et il le donnait à toutes les élèves soprano et basse qui passaient, surtout son rôle à lui, du marquis, du père de Blanche, et... Je connaissais déjà l'œuvre de Poulenc, mais là, vraiment, je suis entrée dedans, entre la voix humaine et le dialogue. C'était pour moi, si vous voulez, ça correspondait parfaitement à la façon dont je voulais écrire de la musique pour les voix. C'est-à-dire un texte totalement prosodier, parfaitement, avec un respect d'abord de la prosodie française, la musique venant après. Aussi géniale chez Poulenc soit-elle, la musique vient après le texte. Et ça a été mon credo, ça le reste encore. Hein, vraiment, c'est le texte qui conduit ma musique et c'est pour ça qu'on aime bien la chanson. Je pense. Donc j'ai une admiration sans bornes pour la musique vocale de Poulenc et puis une grande tendresse pour Xavier Depraz qui chantait le marquis comme personne. Mmh.
Ce rapport au texte, vous pensez qu'il y a une musicalité, Isabelle Aboulker, déjà qui induit une musique dans certains textes, ou ça n'est pas ça?
Ça, c'est, je sais pas comment vous expliquer. Quand moi je choisis des textes, c'est plutôt, je veux qu'ils disent quelque chose d'intéressant. C'est pour ça, par exemple, que si, quand on me demande, et quand j'ai essayé de mettre du Mallarmé en musique, je vais pas du tout dire que Mallarmé n'est pas un très très grand poète, mais c'est quand même très abscon. Et pour moi, je suis quelqu'un d'assez primaire, j'ai besoin que ça parle, que ça veuille dire quelque chose, et que tout de suite le public entende le verbe, les mots, la situation. Et puis si la musique derrière est bonne, eh bien tant mieux. C'est vraiment ça, et ça continue à l'être. Vous voyez, tout récemment, j'ai mis la nouvelle de Maupassant. Je vous dis que je suis primaire, moi, j'ai des goûts Maupassant. Et Boule de Suif est une des plus belles, la première qu'il a écrite, la première qui a fait que Flaubert a reconnu en lui, alors qu'il l'aimait beaucoup comme un fils, il le prenait pour un rigolo, et avec Boule de Suif, il lui a dit, ça y est, tu es un écrivain, tu peux y aller. Et cette nouvelle m'a beaucoup, beaucoup touchée, et je l'ai mise en musique, voilà. Je sais que là, j'ai des retours de personnes, parce que ça est monté par des chorales d'amateurs, j'adore, des personnes qui m'ont écrit en me disant « on a aimé chanter Boule de Suif ». Meilleure récompense, mais c'est Maupassant avant moi. Hein.
Alors il y a un autre auteur qui a été pas mal mis en musique, c'est Shakespeare.
«
Isabelle Aboulker, c'est votre choix, hein, le choix de cette interprète, Jeannine Michaud, qui chantait cette jolie valse du Roméo et Juliette de Charles Gounod, et de Shakespeare, bien sûr. C'est une chanteuse que vous admirez beaucoup, surtout dans cette air.
Cette air, je pense, parce que j'ai plusieurs casquettes, j'en ai eu plusieurs, surtout j'ai été accompagnatrice quand j'ai eu ce fameux prix d'accompagnement, mon seul prix, je le dis au micro, mon seul prix au conservatoire, qui est un beau prix quand même, bien sûr, mais quand même, pas, j'en ai pas beaucoup. Enfin, toujours est-il, j'ai eu la chance d'être là en poste officiel, accompagnatrice de Jeannine Michaud. J'ai pris là le virus de la voix, je l'avoue. Cette femme était très chaleureuse, toulousaine, pas très gentille d'ailleurs avec les élèves, mais alors, la façon dont, quand elle donnait des exemples, on sentait que cette musique française, c'était presque elle qui l'avait écrite, cette valse de Juliette, comme j'ai beaucoup fait travailler les chanteurs, personne ne chantait comme elle, ce fameux début avec, bon, excusez-moi d'employer des mots un peu compliqués, avec cette appoggiature, ta, 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 et puis cette descente chromatique, qui est une petite merveille. Alors, bien sûr, vous allez dire, ça, c'est des choses de personnes qui connaissent bien la musique. Non, non, je ne crois pas. Je crois que ça touche parce que c'est vraiment une sorte de perfection et de compréhension de cette musique totalement admirable, désuète, mais tellement belle, de Gounod, qui était un harmoniste très très fin, et c'est une musique beaucoup plus raffinée qu'on peut croire. Quand vous la jouez au piano, vous vous rendez compte de cette qualité d'harmonie. Et cette valse de Juliette est un petit bijou chanté par Jeannine Michaud.
Isabelle Aboulker, vous écrivez beaucoup pour les enfants, vous écrivez aussi pour les voix d'adultes. C'est pas du tout le même travail. Est-ce que ça ne vous limite pas d'écrire pour les enfants? Non?
C'est pas, c'est le même travail.
C'est le
même
travail.
Vous savez, les années passent, maintenant j'ai un âge canonique, et j'ai gardé, je ne sais pourquoi, un fil qui me relie à l'enfance. Et je le vois bien, puisque j'écris tout récemment quelque chose qui s'adresse au maternel, hein. Et écrire pour les enfants, c'est simplement respecter une tessiture. Mais sinon, c'est faire un joli texte, et avec des mots qui veulent dire quelque chose, des harmonies riches, car c'est ça le drame souvent des œuvres pour enfants, c'est cette pauvreté d'harmonie, moi, qui me rend triste. Hein. Et parfois des choix de textes qui sont pas à la hauteur de ce que demandent les enfants. J'ai mis en musique Jules Renard pour les enfants, des petits textes sur les animaux, et je vous assure qu'il y a une faculté de prendre les beaux mots, d'aimer cela. Oui, bien sûr que si j'écris pour une personne comme Patricia Petitbon, ben oui, bien entendu que ça ne sera pas le même travail, mais pour moi, avec le même plaisir, oui, et avec l'impression de faire le même boulot, vraiment. C'est-à-dire autant de respect pour un petit bonhomme qui habite à Aulnay-sous-Bois et qui est tout noir de peau et tellement vif et tellement heureux qu'on lui apporte des belles choses, quoi. Ou alors une chanteuse qui vient vous dire « écrivez-moi », comme actuellement j'ai le plaisir et l'honneur de travailler avec Françoise Masset, qui est une personne très exceptionnelle dans la façon de concevoir les textes, d'appréhender la musique. Elle a fait musicologie, donc il s'agit pour elle a besoin de choses.
Exigeante, oui, hein, oui.
Vous la connaissez, oui, aussi, Dominique. Et grand plaisir de travailler pour elle. J'ai écrit la fable à laquelle je n'aurais jamais osé toucher, chez La Fontaine, qui est Les animaux malades de la peste. Un monument, hein. Et elle a fait ça d'une façon assez géniale. C'était pour elle. Je n'aurais pas écrit pour quelqu'un d'autre.
Alors, ce goût pour les histoires remonte peut-être à il y a très longtemps, Isabelle Aboulker. On va découvrir votre choix suivant.
D'Ange et de Neuzy, un soldat rentre chez lui. Qu'un jour de congé qu'il a, marche depuis longtemps déjà. A beaucoup marché. S'impatiente d'arriver, parce qu'il a beaucoup marché.
Voilà un joli endroit. Si on se reposait un moment.
Mais le fichu métier qu'on a, toujours en route, jamais le sou.
C'est ça, mes affaires sont dessus dessous.
Alors on écoutait, évidemment, tout le monde l'aura peut-être reconnu, le début de l'histoire du soldat d'Igor Stravinsky sur un texte de Ramuse, avec la voix, je ne sais pas si certains d'entre vous la reconnaissaient, c'était celle de Jean Cocteau. Cette histoire du soldat, Isabelle Aboulker, vous l'avez entendue petite.
Oui, c'est un chef-d'œuvre absolu, la question n'est pas là. On le met souvent, on le programme souvent dans les programmes pour enfants, et j'ai ce souvenir, moi, au début, ça part, on se dit, ça va être chouette. Et puis après, il y a beaucoup de textes, et la musique devient un peu difficile.
Un peu glaçante.
Bon, j'ai voulu aider les petits, parce que j'ai donc fait un petit ouvrage de 20 minutes qui précède le soldat, c'est-à-dire quand il était petit, voilà. Et qu'on lui a mis un violon dans les mains, puis il avait des tas de sœurs, ce qui m'a permis, il avait 6 sœurs, et il y a 7 instrument. Donc, ces 6 sœurs, pour faire une sorte de présentation que, j'espère, Stravinsky dans le ciel ne me trouve pas trop iconoclaste. Mais donc, chaque sœur joue en un instrument et moi, ayant écrit des petits thèmes, ça permet peut-être une approche un peu plus facile de cet ouvrage, qui est magnifique, mais est-ce pour les enfants? Ça, c'est vraiment une question qu'il faut poser aux programmateurs. Parce que, je vous assure, quand il y a des classes, moi je vais beaucoup dans les classes, et ça bouge beaucoup, hein. Au bout de 10 minutes, vous voyez les petits, les
on
petits
le
loulous,
sent, la mère devient houleuse.
À gigoter. Donc, ça s'appelle Histoire du petit Ivan qui ne voulait pas devenir soldat. Et à la fin de ma petite histoire, il y a un recruteur qui vient dans son village, et il part, et commence l'histoire du soldat. Voilà. Là, j'étais assez contente de moi. Je sais pas, voilà.
Petite chose. C'est une sorte de mini Pierre et le Loup pour préparer à l'histoire du soldat. Voilà.
Voilà.
Alors vous le faites beaucoup ça quand même, de créer ces opéras pour enfants. Là je crois que vous êtes sur un projet anniversaire avec un des grands auteurs qui a écrit pour les enfants.
Prestigieux, oui. Roald Dahl. Qu'à ma grande honte, je ne connaissais pas, mes enfants étant trop grands, je crois, pour avoir lu Roald Dahl, et que j'ai découvert, parce que c'est un excellent
très,
auteur,
très grand,
bien entendu, écrivain. Il écrit beaucoup aussi pour les adultes, oui. Mais quelle belle langue et quelle belle traduction aussi, parce que je suis très sensible, moi, à la qualité de ce que je mets en musique, hein. J'ai besoin que ça soit beau pour que ma musique ne soit pas trop vilaine, et donc Gallimard Jeunesse m'a fait confiance, parce que je peux vous dire que du côté des Anglais, Roald Dahl, c'est une icône,
c'est un héros, ouais.
Et alors tout est surveillé de près. Il fallait pas que ma musique soit ceci, soit cela. Ils ont écouté ce que j'avais fait avant de donner leur caution. Alors, j'ai eu le plaisir et l'honneur de me voir confier par Gallimard Jeunesse la musique de 2 ouvrages de Roald Dahl. Et donc, j'ai mis en musique un peu comme des petites comédies musicales, c'est-à-dire avec des chanteurs, l'énorme crocodile et un amour de tortue. Et ça va sortir en octobre pour le 100e anniversaire de la naissance de Roald Dahl.
C'est un travail qui vous a plu aussi?
Oui. Ah oui, énormément.
Est-ce que vous
énormément.
Y avez
je
un
pense
petit peu
que
de...
cet humour un peu méchant et en même temps avec beaucoup de tendresse, ça me convient bien. Je me suis vraiment bien amusée. Et avec les chanteurs, j'écrivais pour des anciens élèves à moi et Anne Baquet, que je connaissais moins mais qui est merveilleuse. Et Yann Toussaint, un beau baryton que j'ai eu comme élève. Yves Poudret, ténor, plein de talent. Et je me suis bien amusée. Et eux aussi. Je crois que tout le monde est content.
Alors, il y a aussi une pratique qui est la vôtre en famille. C'est celle du piano à 4 mains. Dans cette fantaisie à quatre mains de Schubert, c'était Alexandre Tarot et Xu Xiaomei. Chez vous, Isabelle Aboulker, c'est votre mari et vous qui êtes au piano.
C'est avec mon mari Edmond Rosenfeld, qui était un très grand pianiste. Il est toujours de ce monde, attention. Et toujours mon mari, c'est encore plus extraordinaire.
Magnifique, bravo.
50 ans de mariage, ça n'est pas rien.
Un modèle.
Un modèle, un modèle, et un musicien tout à fait extraordinaire, élève de Katchen, et qui a créé un orchestre de chambre, et puis qui a changé de vie, c'était bien son droit, mais il n'empêche que quand j'entends cette fantaisie, bien entendu, je nous vois tous les deux la jouer, nous l'avons joué encore récemment, mais c'est surtout quand j'entends, par exemple, des mazurkas de Chopin. Et là, je suis très midinette, j'ai le cœur qui se serre, car personne ne jouait ces mazurkas comme lui. Il est d'ascendance polonaise, il avait une sorte comme ça de raffinement, de sens total de ce rythme, et chaque note voulait dire quelque chose. Bon, c'est pas la peine de s'étendre, mais c'est vrai que Edmond Rosenfeld, ça voulait dire quelque chose sur le plan du piano, et pour
puis
moi, ça veut
radio.
Toujours vouloir dire. Ah oui, en tant que producteur.
Oui, il a été producteur.
Oui. Le problème d'un homme trop doué, c'est qu'il se permet de laisser comme ça derrière lui des choses extraordinaires.
J'espère
c'est pas
qu'il
mon cas, moi j'étais une petite fourmi, j'ai avancé, 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 et puis voilà, je suis devant vous aujourd'hui.
J'espère que vous êtes contente d'être avec nous, parce que nous sommes très contents de vous avoir ce matin. Et Isabelle, bien, votre dernier choix, c'est Mozart. Don Juan, le début, l'ouverture.
Thank you. Nous écoutions l'ouverture du Don Juan de Mozart, Isabella Boulker, dans une version du London Philharmonic Orchestra dirigée par Georg Scholti. Pourquoi Mozart?
Pourquoi l'ouverture de Don Juan? Oui, vraiment, c'est un peu surprenant ce que je vais vous dire, mais j'ai donc beaucoup travaillé autour de La Fontaine. J'y reviens. Une des fables très très fortes, c'est Le lion devenu vieux. Je l'ai écrit pour les enfants et en... Le prologue, l'ouverture, enfin les mesures qui précèdent le chant, j'ai mis cette, on va pas dire du plagiat, mais j'ai fait comme ça une sorte de référence,
un clin d'œil, une petite référence
à cette montée de gamme montante et descendante, et avec ce tragique, c'est ça qui est magnifique, hein, avec la musique. Tonal, on me reproche beaucoup d'être tonal, néo-tonal, et puis c'est une insulte. Mais moi, je le revendique. Quoi de plus beau? C'est comme les couleurs en peinture. Qu'est-ce que vous voulez? En musique, nous avons l'harmonie, la mélodie. Ça reste. Quand on aime tellement ça, on l'utilise. Donc, toujours est-il que j'ai mis une montée, comme ça, une gamme ascendante et descendante, en référence à Don Juan, en me disant, ben, pour les enfants, peut-être un jour, justement, ils écouteront une émission de radio, ils entendront, et ils diront, ah oui, la tristesse, ça peut se faire avec une montée descendante et montante. Voilà, c'est des petites choses. On peut trouver ça un peu naïf de ma part, mais enfin bon, on travaille avec ce qu'on est.
Et ce qu'on aime.
Et ce qu'on aime.
Merci Isabella Boutker d'être venue nous retrouver ce matin. Je rappelle donc que votre petit opéra Marco Polo et la princesse de Chine sera donné à Montpellier le samedi 16 juillet. Et alors ce sera une version un peu particulière puisque ce sera avec le quatuor face à face, deux pianos, Mara Dobresco et Géraldine Dutroncy, et deux percussionnistes, Hélène Colomb-Botti et Elisa Oumanès.
Juste un petit mot pour dire que c'est une version, donc ce n'est pas la version que moi j'avais faite pour orchestre, et ça a été donc réadapté pour sur le modèle de la sonate de Bartok par Bruno Perbost, qui en a fait quelque chose de très très beau.
Et bien sûr, ce sera Sophie Janin à la direction. Merci Isabelle.
Thank you.
Extrait du coffret que Radio France a consacré aux orgues historiques. Olivier Beaumont jouait ici sur les orgues de Bordeaux, ce dialogue signé Armand-Louis Couperin. Lundi, je vous le rappelle, un récital de Thomas Monet vous est proposé ici à Radio France, à l'Auditorium, avec au programme des œuvres de De Grigny, Bach et Valérie Aubertin. Bonjour Jérôme Sandlars.
Bonjour Dominique.
Alors Jérôme, aujourd'hui vous avez décidé de nous faire vivre la fameuse vente aux enchères de vinyle de la discothèque de Radio France qui a eu lieu dimanche dernier au studio 104 de la Maison de la Radio.
Alors en effet, ça faisait un moment qu'on l'attendait. On avait déjà eu l'occasion de vous en parler lorsque j'avais fait un reportage à Calberson, au stock de la discothèque de Radio France. Et puis le jour est enfin arrivé. C'était donc dimanche dernier, 19 juin. Il y avait des amateurs, des passionnés de musique, des professionnels, des collectionneurs. Tout le monde s'était donné rendez-vous au studio 104 de la Maison de la Radio à partir de 14h dans une ambiance effervescente.
Alors c'était quel genre de public, Jérôme ?
Mais pour ne rien vous cacher, c'était très masculin quand même.
Ah bon, tiens, ouais. Comme c'est drôle.
Ouais, c'est un truc de mec quand même.
Je suis pas sûr.
Alors parmi les 8000 disques vinyles qui étaient mis à la vente, tous les genres musicaux étaient représentés. Il y avait de la chanson française, il y avait du jazz, du blues, du rock'n'roll, des musiques du monde, des bandes originales de films, de la pop, du punk et aussi évidemment du classique. Et bien sûr, dans l'eau se cachaient de véritables petites pépites que je vous propose de découvrir en compagnie de Marc Marais, le directeur de la discothèque de Radio France, David Jaloux et David Skinazi, oui deux David, experts d'Art Richelieu, Romain Couturier, documentaliste et quelques amateurs éclairés présents ce jour-là. Où est-ce qu'on se trouve, là, Marc Marais ?
On se retrouve dans l'allée principale de l'Agora, à la Maison de la Radio. Là, on a laissé trace encore de toutes ces pochettes qui vont être vendues d'ici à peu près 4 minutes. Entre autres, là, regardez, on est sur des choses assez incroyables. Les Beatles, évidemment, la collection Okora de la Maison de la Radio.
Nomade du Niger.
Nomade du Niger. Ah oui, le Johnny Hallyday, les Chevaliers du Ciel. Donc ça, c'est extraordinaire. Et là, notre fierté à nous, il faut quand même le dire, le travail des techniciens, des producteurs, des programmateurs de la Maison de la Radio, qui, au fil du temps, ont accumulé et fait produire des vinyles qui n'ont jamais été commercialisés pour nous aider à illustrer certains reportages.
Siglé ORTF. À côté, Syd Barrett, ça fait partie des pièces un peu de collection qui vont être vendues aujourd'hui, ça ?
Et là, je vais passer la main à quelqu'un de très important pour nous, qui nous a aidés. Il faut savoir une chose, c'est que nous, on a mis à disposition cette discothèque et on a demandé vraiment à des gens, à des amoureux du vinyle, de venir nous aider et nous dire qu'est-ce que l'on a. En fait, nous, on ne savait pas bien ce qu'on avait dans le sens pièces de collection.
Trip two. Should I do that?
Two.
After.
Voilà, donc je suis David Jaloux, je suis un des deux experts donc, de la vente. Effectivement, nous, on a arpenté un peu les couloirs, là. Alors, c'était assez magique pour nous, parce que déjà, il y avait plein de perles, dont notamment des disques qu'on n'avait jamais vus. Hein. C'est assez incroyable, ce qu'il y a encore chez Radio France, hein. C'est fabuleux. Et on a vu qu'il y avait deux copies du Syd Barrett. Et là, les bras nous en sont un peu tombés, parce que c'est un disque qu'on n'a jamais vu. On va tant de métiers, c'est la pièce maîtresse un peu de la vente aujourd'hui. C'est un disque qui est vraiment mythique, hein, dans l'histoire rock.
Il s'intitule « Octopus Golden Air ».
Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Syd Barrett, c'est un des membres fondateurs de Pink Floyd. Il a été évincé très rapidement du groupe parce qu'il a surconsommé du LSD. Octopus, donc, c'est son premier single qui sort. Il y aura deux albums qui vont suivre. Et là, on a la chance d'avoir la pochette française avec une image, un dessin. Alors,
avec sur la pochette une pieuvre.
Hein. La légende veut que ce soit lui qui ait fait le dessin sur la pochette du disque.
Un 45 tours qui date de 1970.
Tout à fait.
Alors, comment vous l'avez évalué ?
Ce qu'on a fait, nous, c'est que on connaît un peu le marché du disque, hein, au bout d'un moment. Et c'est vrai que le Syd Barrett, on a su qu'il s'était vendu dans les 10 dernières années, une ou deux fois. Et effectivement, à chaque fois qu'il s'est vendu, c'était plusieurs milliers d'euros. Et donc, nous, on a mis une estimation qui nous paraît juste. À mon avis, il va être dépassé. On l'estime entre 6 000 et 7 500. C'est important, c'est un gros prix pour un disque vinyle, mais son extrême rareté le justifie. Je pense qu'il a quasiment pas été écouté. Il est quasiment impeccable, quoi.
Il
juste à côté du Syd Barrett, le coffret d'Henri Svering qui interprète au violon les sonates et partitas de Bach. Henri Svering, c'est quand même un violoniste renommé. Il a enregistré en France sur le label Odéon un coffret dans les années 50. C'est un coffret qu'on estime entre 1200 et 1500 euros.
Le deuxième expert.
Ah,
c'est incroyable.
Bonjour.
Bonjour.
C'est vous le deuxième David?
C'est moi le deuxième David.
Alors, c'est quoi votre nom?
David Skinazi.
D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous avez une petite merveille à nous faire entendre parmi celles qui sont exposées ici, là, dans le couloir de l'Agora?
Le Bird in Paris, par exemple. Donc, superbe disque de jazz, avec une pochette française uniquement.
Donc il s'agit de Donald Byrd. Ouais. Quintet, Bird in Paris.
Voilà,
c'est sur le label Brunswick.
Exactement, c'est tous les membres de Blue Note en fait.
Est-ce que ça a été numérisé, ça, le Bird in Paris, avant de le mettre en vente, Marc Marais?
Ah bah, non seulement ça a été numérisé, mais en tout cas, il reste toujours un exemplaire hein, dans la collection. Donc,
il y a intérêt.
Bah, bien sûr qu'il y a
intérêt. On ira vérifier.
Non, mais n'oubliez pas que j'ai été face à 4500 collaborateurs de la Maison de la Radio qui m'ont tous regardé avec des gros yeux en disant « Attention, hein, vendre, c'est très très bien, mais il faut absolument qu'il nous reste un exemplaire pour nous aider à faire nos émissions. » J'ai dit « Évidemment. » Et on s'est engagé là-dessus aussi avec les experts, évidemment, avec l'organisation, à qu'il reste un seul et unique exemplaire. Bien évidemment, et surtout qu'il sera numérisé. Et n'oublions pas que le fruit de cette vente va financer une campagne de numérisation à grande échelle qui va vous permettre et nous permettre de redécouvrir des pépites, de mettre plus de musique à disposition avec les métadonnées qui accompagnent un disque et aussi bah, le nom, les auteurs-compositeurs.
Les notes de pochette.
Les notes de pochette, bien évidemment, qui vous aident à préparer vos émissions.
Et je vous tiens à préciser qu'ils ont gardé les exemplaires en meilleur état.
Bertrand va nous dire un petit mot sur le 48.
Voilà, alors avec le 48, nous commençons les bandes originales de films.
La planète sauvage, là, ça m'intrigue.
Sauvage,
très beau film d'animation très beau de René Laloux.
Exactement, ouais. Exactement, avec musique de Alain
Goraguer.
Voilà, et illustration de Roland Topor. Très bon film, super musique qui l'accompagne.
Alors Romain Couturier, j'en profite, vous aussi vous êtes de la vente aujourd'hui, donc vous êtes documentaliste et vous occupez principalement de France Inter, hein, c'est
oui.
Ça, ici à Radio France. Est-ce qu'il y a pour vous des petites pépites à ne pas rater?
Oui, il y a des choses assez intéressantes, notamment dans le lot 40, qui est composé donc de 5 disques de Brigitte Fontaine et d'Areski, notamment le premier disque d'Areski qui est sorti, je crois, en 72, qui s'appelle Un beau matin. Donc on est dans la pleine époque Sarava, Pierre Barou, aux enregistrements. Je crois que la pochette a été signée de Georges Moustaki, c'est lui-même qui a pris la photo. Donc c'est quand même un très beau disque. Et en plus, c'est son seul disque solo jusque dans les années 2000, je crois.
Pierre Barou, le plus brésilien des Français.
Et aussi japonais.
Et aussi japonais, parce qu'il est marié à une japonaise, c'est vrai. On écoute lequel?
Oh bah on va écouter le Areski, Un beau matin.
Numéro 40, Elsa.
Un lot de 5 10 33 tours de Brigitte Fontaine et d'Areski. On débute à 40.
50, 60, 80, vous en voulez à 100?
Mon voisin veut me vendre à la brigade d'estupes.
Bravo!
100,
100,
bravo,
120, 150.
Le destin a des doigts, mais la gloire a des ailes.
Criez en haut, hein.
Les rosées de salon sont des fleurs bien cruelles.
À 180.
180, c'est là, au troisième rang à droite, c'est lui à 180. Adjugé, 180 au
votre numéro.
Votre numéro, s'il vous plaît.
82.
Merci beaucoup.
Alors là, on est dans l'allée qui mène donc à l'Agora et en direction du studio 104 où se déroule la vente. Et il y a un certain nombre de pochettes qui sont exposées là, avec les plantes vertes derrière. C'est assez joli d'ailleurs.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
Zoé, Zoé, ça ne veut rien dire. Zoé, Zoé, ça m'amuse et ça me fait rire. De dire et redire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
Et on tombe sur un disque de France Gall.
Le 45 tours s'appelle Zoé Zoé et avec la face B Mary Mary Ho, donc qui est sorti en 1970 et qui est assez rare, oui, qui a jamais été réédité dans aucune intégrale de France Gall. Donc c'est un titre pop un peu bossa nova, une influence brésilienne qui change de la France Gall de Gainsbourg qu'on connaissait avant et de celle de Michel Berger qui va arriver 4 ans plus tard.
Pas d'embarras, écoute-moi, ne prends pas d'homme, dis-moi.
Et parmi les bandes originales de films, est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué, Romain Couturier?
Oui, c'est celle de François de Roubaix dans le film Chacun son homme, où en fait c'est Brigitte Bardot et Annie Girardot qui chantent en duo sur l'homme qu'elle préfère, enfin avec ses qualités, ses défauts.
François de Roubaix, il faut le préciser, c'est un compositeur de musique de film qui est mort prématurément d'un accident de plongée à peut-être 35-36 ans, quelque chose comme ça.
Tout à fait.
Et qui avait composé le générique de Chapi Chapeau.
Également, et aussi une autre musique originale qui s'appelle Le Manège aux images, avec Samba, en fait, un morceau tout à fait original qu'il avait composé pour un spectacle de marionnettes. Et donc, il sera aussi à la vente le lot numéro 91.
Un disque de François de Roubaix et on débute à 100.
Et 100, 120, 150, c'est sur double commission
et
à
oui,
180.
200,
220.
Personne là.
Ah,
non,
j'ai 220 au numéro 1067.
Alors là, on est dans la salle du 104, pleine à ras-bord. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amateurs de vinyle qui sont là aujourd'hui réunis pour cette vente aux enchères. Il y a un monsieur avec des lunettes de soleil au premier rang. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes collectionneur ?
Oui, bah oui, oui, je m'intéresse au vinyle de près. J'en ai quelques milliers à la maison.
Et dans tous les styles ?
D'en avoir quelques-uns de plus que je n'ai pas le temps d'écouter à ajouter à la pile des autres, ça sera bien.
Est-ce que vous cherchez des choses particulières là, puisque vous avez le catalogue en main là ?
Bon, y a quelques trucs que j'espère avoir, après sans grandes illusions, parce que j'ai l'impression que c'est des choses sur lesquelles les gens ont beaucoup se bagarrer. Moi j'aimerais bien avoir, ça c'est un disque de Gilbert Safrani, mais pas de bol, je suis venu avec mon pote qui le veut aussi, donc on a convenu que je lui laissais, voilà.
Ou alors vous pouvez faire une garde partagée ?
C'est ce qu'on a dit, lui la pochette, moi le disque, et puis on alterne.
Je sais que la vie est courte, mais quoi qu'il m'en coûte, je t'attendrai. Je sais que la vie est belle, mais quoi qu'il advienne, je t'attendrai.
Je travaille dans le disque, je fais moi-même des vinyles, je fais un label en fait, donc c'est pour vous dire comme si je suis imprégné de tout ça aussi.
Il y a un vrai retour du vinyle, non, aujourd'hui ?
Ça fait plaisir aux gens de croire qu'il y a un réel retour, mais en réalité c'est complètement marginal. Ça intéresse quelques gens à Paris, peut-être à Bordeaux et Nantes, mais je vous promets, allez déjà à 50 km de Paris, passez le périph et vous verrez que les gens n'ont rien à foutre du retour du vinyle. Parce que c'est ça, hein, c'est bien le vinyle, mais c'est un support, donc Ça tourne vite à quelque chose qui est assez glauque, qui est le fétichisme. Et il y a beaucoup de gens, évidemment, qui aiment la musique, qui ne veulent pas tomber dans cette espèce de fétichisme bas du front et de la collectionnite. Et du coup, voilà, qui se concentrent sur le CD, parce que ce qui importe en définitive, on s'en fout du support, c'est la musique.
Vous dites ça et en même temps, vous êtes quand même là aujourd'hui pour
oui, mais après, c'est
traquer
névros.
Quelques vinyles.
Voilà, c'est des névroses, c'est des choses comme ça. Et puis c'est des trucs de complétisme, et je ne tire aucun fierté à être ici. Voilà, c'est des maladies. Voilà.
Vous êtes un grand malade.
Oui.
Et votre prénom ?
Jean-Baptiste.
Merci beaucoup.
Un 37. Disque de garage mode beat et on débute à 80.
150, 180, 200, 220, 250, 280, 300.
Lui, c'est pas intimidé.
320, 350,
400. 480 à ma gauche.
480.
Excusez-moi. Hein.
500.
500.
Bien que tu sois très loin, chaque matin, reviens pour me parler de toi. Sur mon
550.
700. 750, et oui, Safrani revient à la mode.
Bravo, Pascal.
À 750, c'est mieux.
Plus par vous, monsieur.
À 750.
750, qu'est-ce qu'on fait ?
Ah bah oui, c'est le jeu. 850.
Si, des regrets, mais pas d'enchères, nous sommes à 850. C'est vu, j'ai joué 850. À juger, bravo.
Bravo.
850.
Bravo. Au 709.
Pas trop déçu de vous être fait souffler le Gilbert Safrani ?
Non, je suis pas déçu parce qu'il y a 850 euros. Voilà, c'est quand même pas très raisonnable pour un 5,45 tours, donc non, c'est pas grave. Et de toute façon, voilà, c'était très, très, très au-dessus de mon budget.
Numéro 50.
Un lot de 6 disques, 33 tours de bande originale de films de James Bond, et on débute à 30 euros.
James Bond, nous sommes à 30, 40,
50, 50, 60, 80.
Et 250.
250.
250, nous sommes.
300. 450. 500. 600. Vous en voulez encore ?
Oui.
700.
Adjugé. 700 euros. 766.
700.
Bravo.
Il y a vraiment des fans de James Bond. Bravo.
Je vous ai vu lever la main tout à l'heure. C'était pour quel lot ?
La collection des James Bond, les 6 vinyles de James Bond.
Ils sont partis à quel prix ?
Indécent. Il y en a un pour près de 300 et l'autre à 700.
C'est quoi votre prénom ?
Ardo.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je travaille dans les ressources humaines. Rien à voir avec tout ça. Mais jeune, j'ai travaillé un peu dans la presse musicale. Je faisais des petits articles pour les fanzines au début. Et de là, j'ai eu une passion pour la musique. Et c'est pour ça que je trouve que c'est formidable que ces disques puissent avoir une deuxième vie. Quoi.
Vous êtes aussi bien CD que vinyle ou...
Non, aujourd'hui, je suis vraiment à fond vinyle. Et j'ai même des cartouches 8 pistes, le format américain des anciennes cassettes. Et pour vous dire, je suis plutôt vintage. Ou, à l'inverse, fichier HD. Le vinyle, c'est vrai que c'est quelque chose qui est fabuleux, quoi. L'objet, et puis en même temps, l'histoire qu'il y a derrière. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de plus que le CD. Plus rond, plus chaud, et puis en même temps, ça nous oblige à écouter la musique, puisqu'on est obligé de tourner le disque. Il faut tourner, il faut prendre le temps, il faut écouter, il faut déguster. Enfin, on consomme pas, on écoute. Et ça, c'est important.
Arnaud, si on devait choisir une plage d'un James Bond à faire partager aux auditeurs de France Musique, ce serait laquelle ce matin ?
Diamonds Are Forever de Shirley Bassey, oui.
Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever.
Vous faites une petite pause là?
Oui, parce que j'ai un lot qui m'intéresse vers la fin, mais uniquement pour les tampons de RTF. C'est un lot d'un groupe de rock anglais, les Soft Machines, et sur une des pochettes des Soft Machines à l'arrière, il y avait une dame qui était assise nue, et là, le censeur a mis le tampon sur les fesses de la personne. Ce que collectionner en plus de Soft Machines, c'est plutôt pour l'objet, mais bon. Il y a des enchères sur certains groupes de musique qui m'étonnent, c'est un peu très irrationnel, quoi.
Je vous ai vu enchérir en effet à plusieurs reprises. Vous avez emporté quel lot, vous ?
Tendre voyou et Ne nous fâchons pas. le 45 tours EP de Michel Magne. Et dans la pochette du Ne fâchons pas, il y a une particularité, c'est que dans les premières pochettes, c'était, au lieu de mettre Georges, on avait Gérard Lautner. Donc c'est ça qui est marrant pour certains trucs.
Vous êtes venu pourquoi?
En fait, c'est le premier album de Bob Marley de Wailers, Catch a Fire.
Avec le briquet Zippo.
Voilà. Mmh.
Et un 45 tours.
Et 45 tours de No Moment, No Cry. Donc, c'est vraiment les deux grands classiques de Bob. Ouais,
maintenant, on va aller faire des heures sup pour se le payer.
Bertrand va nous en parler.
Donc, le 45 tours d'Octopus de Syd Barrett. Vous avez lu, vous connaissez l'histoire de Syd Barrett qui renvoyait les Pink Floyd, qui se réfugie chez ses parents. Ses copains ne le laissent pas complètement tomber, notamment David Gilmour qui l'aide à accoucher d'une ou deux chansons. Malgré la dépression, malgré la drogue, tout ça, ça devient ce 45 tours qui n'a aucun succès, pressé à très peu d'exemplaires. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a, semble-t-il, une dizaine d'exemplaires de ce 45 tours identifiés, présents dans des collections actuellement dans le monde. Et la discothèque de Radio France l'avait en double.
Merci beaucoup, Bertrand. Et nous commençons à 3000 euros.
500. 4000. 500.
5000.
500.
6000.
6000.
6500. 8000.
8000. 500.
9000.
9000. Ah 9... oui, c'est le moment de casser sa terre, hein. 9000. 9000. Non ?
9200.
9200.
9200 euros, nous sommes. 9500.
Ah, je préfère.
10000.
10000.
10000 euros.
500.
10500. À 10500, j'adjuge à 10500. C'est bien vu ? Adjuge.
Eh bien,
j'ai
bravo,
10500.
Félicitations. Merci
bravo.
Bien. Merci beaucoup. 48.
J'imagine qu'après toutes ces émotions, Dominique, vous mourrez d'impatience de connaître le bilan de cette vente aux enchères.
Mais oui, ne nous faites pas attendre.
Ça a été un immense succès. Tous les vinyles ont été vendus et les prix de vente ont dépassé toutes les prévisions, avec des lots qui ont parfois triplé ou quadruplé les estimations de départ. Les recettes ont atteint 150 000 euros qui serviront, je le rappelle, à poursuivre la numérisation en cours.
Merci Jérôme Sandelaz.
Merci Dominique. Et je tenais à vous remercier de m'avoir accueilli toute cette année dans votre émission.
C'était un vrai plaisir. La chronique de la Maison Ronde. Voilà une excellente nouvelle. La maison dans laquelle Olivier Messiaen aimait à se retrouver et dont les paysages l'ont fortement inspiré, à Pétichet dans l'Isère, est enfin devenue une résidence d'artistes, la Maison Messiaen. Où pourront travailler à proximité des archives du compositeur, les artistes que son catalogue intéresse. Sa maison, acquise en 1936 et administrée depuis sa mort par la fondation Kivonne Loriot, l'épouse pianiste de Messiaen à Cré, sera donc inaugurée le week-end prochain. S'y retrouveront bon nombre d'artistes et de musicologues qui, tout au long d'un parcours de 14 stations, où seront proposés concerts, rencontres et autres projections. La liste des artistes qui y participent est longue. On peut tout de même citer les pianistes Louise Bessette et Jean-François Esser et bien sûr Roger Muraro, dont l'intégrale de l'œuvre pour piano vient d'être rééditée, mais aussi le chœur Britten de Nicole Corti, l'ensemble orchestral contemporain dirigé par Daniel Kafka, le violoncelliste Raphaël Perrault, le clarinettiste Patrick Messina et bien d'autres qui viendront célébrer cet amoureux des chants d'oiseaux, des musiques du monde et des paysages impressionnants comme celui qui entoure la Maison Messiaen. C'est donc le week-end prochain à Pétichet dans l'Isère. Le lien avec toutes les informations est à la page de Fabrication Maison sur francemusique.fr. Agenda. Lundi 27 juin à 19h, ne manquez pas le dernier enregistrement de la saison de Plaisir du Quatuor, l'émission de Stéphane Goldet sur France Musique. Elle reçoit quatre filles dans le vent, les membres du Quatuor Ardeo, Carole Petit-Demange et Missa Yang au violon, Yuka Hara à l'alto et Joël Martinez au violoncelle. L'entrée est libre sur réservation. Lundi toujours à la Maison de la Radio, nouvelle séance de cinéma sonore avec Les Proies, le roman de Thomas Cullinan qui sera diffusé en son spatialisé mais dans le noir. Et motif s'abstenir. Le cinéma pour les oreilles, c'est au studio 105 à 20h30. Et c'est samedi 2 juillet que l'Orchestre National de France, dirigé par Didier Benetti, jouera pour la fiction 20 milieux sous la mer de Jules Verne, avec comédiens, musiciens et bruiteurs sur scène. Ça, c'est au studio 104 à 20h et à 22h. Mardi 28 juin, la maîtrise de Radio France est l'invitée du festival Jazz à Vienne. Au Théâtre Antique à 20h30, elle participera au spectacle du trompettiste et compositeur Ibrahim Malouf, sous la direction de Sophie Janin. À Paris, toujours mardi, ce sont l'ensemble Les Surprises et le claveciniste Jean Rondeau qui seront les invités des Mardis de la musique ancienne d'Edouard Fouret-Colfouti.
France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité.
Veuillez écouter notre commentaire de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors ce matin, vous êtes encore notre petit rayon de soleil. Vous nous emmenez en Italie à nouveau, à Verbiana.
Oui, pour une deuxième journée à Verbiana, dans cette magnifique région, non loin des îles Borromée, où, comme vous le savez, les Nuits Romantiques proposent des concerts sur des pianos historiques, parfaitement restaurés, pas du tout des vieux pianos.
Et j'espère bien.
Vous avez tout le temps d'y aller, puisque ça dure jusqu'au 30 septembre, ce que j'ai oublié de préciser la semaine dernière. Vous pouvez les retrouver, les Nuits Romantiques, sur Facebook.
Ça, c'est dit.
Ça, c'est dit. Mais aujourd'hui, je vous propose de rencontrer un jeune pianiste d'origine japonaise qui a choisi le piano ancien, le piano romantique, qui n'a pas du tout de regrets quant au grand piano noir, même si, dit-il, il les aime beaucoup. Allons le retrouver.
Thank you.
partons à la rencontre de Naohiko Kawaguchi, qui travaille sa polonaise brillante. Voilà plusieurs années, j'ai commencé à jouer des pianos anciens, comme ceci. Quand j'ai joué un pianoforte pour la première fois, j'ai reçu un choc très fort. J'ai été surpris, parce qu'avec un piano moderne, par exemple, vous prenez les sonates de Haydn, elles sonnent de façon très ennuyeuse. Mais là, sur un piano porté, la musique se remplit de couleurs et prend une dimension dramatique. Ça a été incroyable pour moi. Le son du piano forte montre la réalité du compositeur, touche au cœur du compositeur. Et aussi Chopin. Je joue avec un playel. C'est un peu comme si Chopin était là. Vous voyez, vous comprenez. Je trouve que le son des instruments anciens est très neuf et moderne pour des gens du 21e siècle. Nous croyons que le piano doit être un instrument immense et noir, comme un Steinway ou un Bösendorfer. Je les aime aussi, mais pour les gens d'aujourd'hui, des sons comme... Ce sont des sons très nouveaux pour nous. Et je crois très inspirants et créatifs.
Alors, on entendait ici ce jeune pianiste japonais, Naruhiko Kawaguchi, interprété sur l'un des pianos de Verbiana.
Un playel.
Verbania, pardon.
Verbania, oui, interprété un des extraits. Enfin, il travaillait l'après-midi, la grande polonaise brillante. Et le soir, il donnait en concert une pièce qu'on entend très peu, le Boléro, l'opus 19 de Chopin, une pièce de jeunesse. Il venait d'arriver à Paris. Et en exclusivité pour nous, l'après-midi, avant le concert qui s'annonçait très orageux, donc on a préféré prendre nos marques, il a bien voulu nous livrer la deuxième partie de ce Boléro. Thank you.
enregistré aux Nuits romantiques de Verbania. C'était le pianiste Naruhiko Kawaguchi, enregistré...
Pas avec les moyens du bord.
Avec les moyens du bord, sur un piano Pleyel. C'était en juin de cette année.
C'était le 11 juin dernier, oui, exactement.
Voilà, et c'était donc la seconde partie du Boléro de Chopin.
Oui, qu'on entend très très peu en concert. Et ça a soulevé, je peux vous dire, le soir, l'enthousiasme des spectateurs et de la chargée de la culture, Monica Abbiati. Et dans le public, il y avait Cynthia, qui parlait français. Alors, vos impressions?
Formidable, fantastique. Un jeune homme qui joue un jeune Chopin. Je crois que c'était un très bon choix.
Est-ce que vous êtes habituée à entendre des pianos anciens ou est-ce que c'est une découverte pour vous ?
Non, je suis habituée, comme je connais bien M. Datlino, et je vais souvent écouter soit du Pleyel, soit Erard, et aussi d'autres pianos d'époque.
Est-ce que, à votre avis, cette redécouverte de Chopin, ce rajeunissement de Chopin, est une chose merveilleuse sur un piano ancien ?
Oui, c'est une impression... Il y a beaucoup d'enthousiasme si on pense au salon français de l'époque parisien. C'est vraiment comme être là, c'est l'époque-là. Et on peut imaginer Chopin lui-même jouer sur un piano qui était construit, peut-être pensé pour lui, pour sa musique.
Enthousiasme du public.
Ça, c'est
donc
de l'enthousiasme.
Oui. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez pour terminer, Jean-Yves?
Pour terminer, je vous propose de retrouver Louis Diemer. Louis Diemer qui était né en 1843 et qui donc a joué, bien entendu, ses pianos anciens et qui en a conservé, peut-être grâce à l'empruntissage qu'il a fait aussi auprès de Marmontel, qui était lui-même un ami de Chopin, ce toucher si caractéristique, si léger, que l'on appelle parfois perlé, de la grande école de piano française du 19e siècle. Ça vient de loin, ça date de 1904, mais c'est presque une leçon de musique. Thank you.
absolument fascinant. Quel beau piano, quel
N'est-il
beau toucher.
Pas, oui. Un toucher très 19e pour cette valse, grande valse chromatique de Benjamin Gotthard, un compositeur un peu oublié aujourd'hui. Et c'est un disque qui appartenait, figurez-vous, à Émile Malle, le grand historien d'art de la fin du 19e, dont Proust d'ailleurs parle dans sa correspondance.
Et c'est Louis Diemer qui est au piano. C'est un disque gramophone, Paris 1904.
Vous savez tout.
Merci Jean-Yves. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et voici notre rubrique « Parlez-moi de musique » dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous lirons le texte que nous a envoyé Marie Pialo. Je devais avoir 4 ou 5 ans quand mon grand-père paternel m'offrit un petit violon et son archet. Il l'avait acheté chez un antiquaire. Je ne me souviens pas vraiment de ma réaction, mais à partir de ce jour, j'emmenais cet instrument partout avec moi. Je me revois le traînant, le malmenant même. Mes parents, pas mélomanes pour un sou, ne me dirent jamais combien ce violon était fragile. Pour moi, c'était un jouet, mais je l'aimais. La table d'harmonie rayée et l'écrin voletant au vent, je ne m'en séparais jamais. Plus tard, je ne sais par quel miracle, j'entendis un violoniste à la radio. Je crois que c'était Menuhin, et ce fut une véritable révélation. À partir de ce jour, je suis devenue accro à la musique et surtout au son du violon. Quand récemment j'ai découvert dans les affaires de mon père une photo en noir et blanc, j'ai pleuré. Une petite fille, coiffée d'une queue de cheval, regardait l'objectif d'un air sérieux. D'une main, elle tenait un petit violon et de l'autre main, l'archet. J'ai alors ressenti une grande et vive émotion. La photo trône maintenant sur mon bureau et désormais, le chant du violon m'accompagne tous les jours. Pour illustrer le souvenir musical de Marie Pialo, nous avons écouté la sonate numéro 5 de Jean-Sébastien Bach dans l'interprétation de Yehudi Menuhin, qu'accompagnent George Malcolm au clavecin et Ambrose Gauthlet, basse de viol. Merci à tous pour vos textes qui nous ont permis de partager nos premières émotions en musique. Pour finir, il y a des places à gagner aujourd'hui encore dans Fabrication Maison. Des places pour le Festival de Radio France et Montpellier, pour le concert que donnera l'Orchestre National de France le 23 juillet au Corum. Sous la baguette de John Nächtling, l'orchestre jouera Saint-Saëns, son concerto pour piano avec en soliste Bertrand Chamaillou. Puis la symphonie lyrique d'Alexandre Zemlinski, que chanteront la soprano Malen Artedius et le baryton Christian Himmler. C'est donc à Montpellier, le 23 juillet à 20h et en direct sur France Musique. Voilà, c'est la fin de notre émission réalisée avec la complicité de Pauline Boisaubert, de Philippe Petit et de Xavier Atto. À très vite.